VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Conakry, 18h à Bangui, bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest. Au Mali, échec d'une tentative d'attentat suicide contre l'aéroport de Gao dans le Nord. La correspondance de notre correspondant sur place, Boubacar Touré, à Gao.
Le véhicule piégé explose devant le camp de l'amunissement dans la nuit du mardi aux alentours de 18h15. Le bilan fait état de deux tués, dont le conducteur du véhicule bourré d'explosifs et un chauffeur d'un camion de livraison surpris par les tirs. Deux agents de la compagnie privée de sécurité ont été également blessés. Les bureaux de l'amunissement dans l'enceinte de l'aéroport complètement endommagés. La sécurité est renforcée autour des camps militaires et de l'aéroport. Les populations prises de panique hier soir ont repris leurs activités ce matin dans la sérénité. Il faut signaler que la situation sécuritaire dans la région devient de plus en plus inquiétante avec des attaques armées, des enlèvements de véhicules et des braquages. Sur les routes reliant les villes, on n'est jamais sûr d'arriver à destination en toute sécurité. Gao Boubacar Touré, VOA Afrique.
Le groupe du djihadiste algérien Mokhtar Belmokhtar, visé par une récente frappe aérienne en Libye, a revendiqué la tentative d'attentat suicide à Gao. Dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux et cité ce mercredi par l'agence mauritanienne Al-Akhbar. Par ailleurs, un groupe armé pro-gouvernemental malien, le groupe d'autodéfense Touareg Imgad et allié Gatia, a affirmé avoir perdu ce mercredi 5 combattants dans l'explosion d'une mine à Adjelal, dans le nord-est du pays. Tandis que l'armée malienne déplorait 2 morts au cours d'une embuscade lundi près de Gao. Et toujours au Mali, procès des putschistes à Sikasso, dans le sud, poursuivi pour assassinat et complicité d'assassinat militaire. Le chef de l'ex-junte malienne Amadou Ayassanogo a déclaré avoir le moral à l'ouverture de son procès mercredi devant une cour d'assises de Sikasso. L'ex-général comparé avec 16 co-prévenus pour enlèvement et assassinat, complicité d'enlèvement et d'assassinat de 21 bérets rouges dont les corps ont été retrouvés dans un charnier en 2013. Amadou Ayassanogo encourt la peine de mort. Initialement prévu au tribunal de Sikasso, qui se trouve à 370 km au sud-est de Bamako, la capitale, l'audience se déroule finalement dans une salle de spectacle pouvant accueillir un millier de personnes. Le procès mettra le temps qu'il faut pour la manifestation de la vérité, a déclaré le procureur général Mamadou Lamine au début de l'audience devant une salle bondée. En Côte d'Ivoire, l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo ne s'est pas présentée ce mercredi à son procès pour crime contre l'humanité au lendemain d'échanges houleux entre elle et le président du tribunal qui lui a adressé une sommation. « Nous commettons l'huissier de justice à l'effet de faire une sommation à Mme Simone Gbagbo à comparaître devant la cour d'assises à l'audience de demain jeudi », a déclaré le président de la cour, le juge Boaki Kouadio. « Si les avocats de Mme Gbagbo ne se présentent pas, nous allons commettre des avocats d'office et poursuivre le procès sans elle et sa défense », a souligné de son côté le procureur Ali Yeo. Politique en Gambie, près d'un million de Gambiens sont appelés à choisir demain, jeudi, leur nouveau président pour 5 ans au cours d'un scrutin à un tour. Le chef de l'État, Yahya Jammeh, a déclaré mardi que toute manifestation serait interdite après l'élection présidentielle. Et ce, au moment où la capitale Banjul connaissait d'importants rassemblements en faveur de leader de l'opposition, Adama Barrow. Face à l'ampleur inédite de ces manifestations, Adama Barrow a pressé le président Jammeh de faire preuve de calme dans le cas où il perdrait l'élection. Porté au pouvoir par un coup d'État en 1994, élu pour la première fois en 1996, puis réélu à 3 reprises, Yahya Jammeh est pour la première fois confronté à un véritable défi dans les urnes.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Tchad, panique à l'ambassade des États-Unis à N'Djamena très tôt ce matin. Un individu a tiré à bout portant sur les vigiles de l'ambassade en criant « Allahu Akbar ». Il n'y a pas de victime, nous dit notre correspondant dans la capitale tchadienne, André Kodmajingar. Les personnels de l'ambassade des États-Unis ont reçu une alerte leur enjoignant de rester chez eux. Le suspect a été arrêté et est gardé à la police pour les besoins de l'enquête. En RDC, le secrétaire général adjoint du parti d'opposition UDPS, Bruno Tshibala, a été libéré hier soir à Kinshasa, arrêté depuis le 9 octobre à l'aéroport international de N'Djili alors qu'il s'apprêtait à prendre un vol pour Bruxelles, puis transféré 3 jours plus tard à la prison centrale de Makala, toujours dans la capitale. Il recouvre sa liberté après 51 jours de détention. L'un de ses avocats, Maître Peter Kazadi, salue la libération de son client et espère qu'il en sera ainsi de tous les autres militants de l'UDPS d'opposition qui sont encore en détention. On écoute Maître Peter Kazadi.
C'est juste qu'on a avancé les motifs des droits aujourd'hui devant les tribunaux pour démontrer au tribunal que notre client ne méritait pas d'être en détention, d'autant plus qu'il n'y a pas d'indice sérieux de sa culpabilité et que sa fuite n'était pas à craindre. Et le tribunal nous a suivis dans notre plaidoyer, ce qui a fait qu'on l'a placé sous un régime de main levée de la détention, c'est-à-dire que l'instance peut se poursuivre, mais lui en étant en liberté. Le tribunal n'a pas prononcé l'affaire au fond. Nous en sommes encore au niveau des, je dirais, préalables et nous attendons voir la suite de la procédure. L'opinion, c'est que c'est injustement que Bruno Tshibala ait été incarcéré. Aujourd'hui, la justice congolaise lui a fait droit et nous souhaitons que les mêmes mesures soient étendues à tous nos militants, tous nos combattants qui se trouvent aujourd'hui en détention.
Maître Peter Kazadi, au micro de nos confrères de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa. Le Rwanda a annoncé mardi l'ouverture d'une enquête sur le rôle de 20 responsables français dans le génocide de 1994. Plus de détails avec John Lyndon.
Selon un communiqué du procureur général Richard Mhumuza, l'enquête porte sur 20 personnes pour permettre de mieux comprendre leur rôle dans le génocide et décider si elles seront poursuivies ou pas. Le communiqué qui cite nommément plusieurs hauts gradés français souligne qu'au fur et à mesure des enquêtes, d'autres agents ou fonctionnaires français pourraient être appelés à assister l'organe de poursuite judiciaire. Le Rwanda souhaite que Paris coopère à cette enquête. L'avion du président Juvénal Habyarimana, allié de la France, a été abattu le 6 avril 1994, ce qui a servi de déclencheur du génocide. Depuis, même les boîtes noires de l'avion font l'objet d'une longue guéguerre entre Kigali et Paris.
Football, au lendemain du crash en Colombie de l'avion qui a décimé l'équipe de foot de Chapecoense, faisant au moins 71 morts, le Brésil a déclaré 3 jours de deuil national. Une enquête a été ouverte. Claire Morin-Gibault.
Les hommages se multiplient au Brésil pour les joueurs de foot de cette ville du sud brésilien qui venait de se qualifier en finale de la Coupe sud-américaine pour la première fois de l'histoire du club. À Chapeco même, des fleurs et des cierges ont été déposés dans les vestiaires de ce petit club par les supporters qui se disent hébétés. La presse brésilienne rend un vibrant hommage aux disparus. Pour le quotidien O Globo, cette tragédie émeut la planète et endeuille le football. En Colombie, l'enquête a commencé. Les 2 boîtes noires de l'appareil ont été retrouvées intactes. Elles devraient permettre de comprendre les causes du crash. Des sources militaires évoquent un manque de carburant. Pour l'aviation civile, il s'agit d'une défaillance technique.
Politique aux États-Unis maintenant, la transition de l'administration Obama au futur gouvernement du président élu Donald Trump continue. Le milliardaire républicain a annoncé aujourd'hui sur Twitter qu'il donnera le 15 décembre une conférence de presse majeure à New York en compagnie de ses enfants pour expliquer notamment comment il va se séparer de son empire immobilier. La conférence de presse portera sur le fait que je quitterai ma formidable entreprise pour me concentrer entièrement et totalement à la direction des États-Unis pour redonner à l'Amérique sa grandeur. Précise Donald Trump, alors que de nombreuses questions de conflit d'intérêts sont soulevées par l'arrivée à la Maison-Blanche de milliardaires à la tête d'un empire économique aux ramifications internationales. Par ailleurs, le président élu a nommé ce mercredi Wilbur Ross comme ministre du Commerce. L'intéressé est un spécialiste du redressement des entreprises en difficulté qui avait aidé à ce titre Donald Trump, dont les casinos Atlantic City dans le New Jersey se portaient particulièrement mal à la fin des années 1980. Autre nomination annoncée aujourd'hui, celle de Steve Mnuchin, un banquier de Wall Street au poste de secrétaire au Trésor. Le président élu avait auparavant nommé 2 autres membres de son cabinet, le député républicain Tom Price de Géorgie, farouche détracteur de l'Obamacare, le programme d'assurance maladie du président Barack Obama, comme secrétaire à la santé et aux affaires sociales. Hélène Char, l'épouse du leader de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, est le choix de Donald Trump pour le département des transports. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.